À l'heure où le sujet sur l'immigration et l'intégration des populations fait l'objet de très nombreux débats dans notre société, la mise en perspective historique de la question des migrations à l'aide de l'archéologie semble très appropriée. Ce recul sur un temps long permet de comprendre comment les territoires du monde se sont peuplés au fil des déplacements qui ont eu lieu de façon permanente, comme on va le voir dans un instant. C'est le dossier de La Tête au Carré, à l'occasion de la publication d'un livre, Archéologie des migrations, avec Dominique Garcia et Hervé Lebras. L'émission étant enregistrée aujourd'hui, nous ne pourrons pas recevoir vos messages comme d'habitude. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, une découverte intrigante sur la végétation pendant les grandes glaciations.
Oui Mathieu, on ira visiter une petite île de végétation qui subsistait au milieu des océans de glace. Une découverte faite dans les Alpes par l'écologue Christopher Carcaillet.
Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouvons la chronique de santé polémique du docteur Dupagne consacrée aujourd'hui à la façon de poser un bon diagnostic médical. Fanny Boyon réalise cette émission préparée par Chantal Le Montagnier.
La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Une archéologie des migrations, ce sera donc le dossier de l'émission dans un instant avec mes invités que je salue, Dominique Garcia et Hervé Lebras. Bonjour.
Bonjour à tous les deux. Bonjour.
Dominique Garcia, les vestiges archéologiques, ils ont beaucoup de choses à nous dire sur le parcours des groupes humains au fil de l'histoire.
Petit à petit, le territoire national s'est transformé en gisement archéologique. Là où quelques années, on s'intéressait à un objet ou à un site. Aujourd'hui, grâce à l'archéologie préventive, on suit les groupes et on suit la formation du territoire sur l'ensemble de l'espace français.
On va donc balayer une grande histoire avec vous, Hervé Lebras. Ce mot migration, d'ailleurs, est-ce qu'il est apparu récemment ?
Il est assez récent, en fait. Il y a un article dans l'ouvrage, un chapitre, qui montre que, par exemple, les Romains n'employaient pas ce mot migration, alors qu'ils migraient beaucoup, dans notre sens. Donc, c'est un mot qui est aussi apparu récemment parce qu'il y a des formes absolument extraordinairement diverses de migration dans le passé, mais aussi maintenant.
Et on va se retrouver donc dans quelques minutes avec plusieurs épisodes marquants justement de ces déplacements de population pour comprendre les raisons qui ont poussé les humains à bouger. Et ce sera juste après la une de la science. Imaginez un oasis de frêles pins, des fougères, des champignons, tout un minuscule écosystème entouré d'un océan de glace morne et hostile. Voilà à quoi ressemblaient peut-être les bordures du lac Miroir dans la vallée du Kéra il y a 20 000 ans. Axel, pour en parler, nous sommes au téléphone avec l'un des découvreurs, Christopher Carcaillet.
Bonjour Christopher Carcaillet.
Oui, bonjour.
Bonjour, vous êtes professeur à l'école pratique des hautes études, spécialiste de l'histoire des écosystèmes. Comment est-ce qu'on fait pour remonter le temps comme ça pour décrire des paysages vieux de 20 000 ans ?
Mais disons qu'on a plusieurs moyens d'explorer donc les archives que la nature nous fournit. Et le moyen qui a été utilisé dans cette étude, dont il est question, a été d'explorer les sédiments du lac. Le lac, il y a de la boue au fond du lac. Cette boue est comme une archive, une bibliothèque pour les gens comme moi. Il faut avoir les techniques pour déchiffrer cette archive. Et elle consiste, en l'occurrence pour cette étude, à quantifier donc les charbons de bois et les restes végétaux, tels que des graines ou des feuilles, des aiguilles, qui se sont accumulés année après année, millénaire après millénaire, dans le sédiment. Et on utilise la méthode du carbone 14 pour affecter un âge ou donner un âge au sédiment.
À quoi ressemblait l'Europe, les Alpes en particulier, il y a 20, 30 ou 40 000 ans ?
Alors, il n'y a pas très longtemps encore, on imaginait qu'on avait une grande calotte glaciaire sur les Alpes. Il y a quelques 20 ou 30 ans, on imaginait ça. Aujourd'hui, on pense que ce sont donc des montagnes dans lesquelles les vallées étaient remplies par des glaciers, mais les sommets des montagnes sortaient. Donc, il faut imaginer, des grandes vallées remplies de glaciers jusqu'à une altitude de 2100, 2200 mètres d'altitude environ. Et puis, les sommets qui émergent. Et en l'occurrence, le fameux lac Miroir était sur une de ses pentes au-dessus des glaciers.
Et pourquoi vous êtes intéressé à ce lac du Kéra en particulier alors ?
À l'origine, c'était une toute autre histoire, donc on s'intéressait uniquement à l'histoire des feux en lien avec l'activité de l'homme et les changements climatiques au cours des derniers milliers d'années, c'est 8-10 000 ans, c'est ce qui nous intéressait. Et en fait, la découverte, elle était assez, c'est de l'ordre du hasard. C'est en forant donc les sédiments, on est remonté très très loin, même jusqu'à 45 000 ans après datation. Sur le terrain, on ne savait pas encore qu'on avait aussi vieux, mais on voyait bien qu'on avait quelque chose d'assez exceptionnel et très vieux. Et la qualité du sédiment, au moins jusqu'à 21 000 ans, était d'une très grande qualité, très grande performance, qui nous permettait de réaliser une étude bien reconstruite de l'histoire des feux et de l'histoire de cette végétation composée essentiellement d'arbres. En tout cas, c'est ce que nous, on a reconstitué, ce sont les arbres.
Mais alors oui, comment il faut imaginer l'endroit ? C'est vraiment comme un oasis au milieu du désert, sauf qu'on remplace le sable par de la glace, c'est ça ?
Oui, je pense que l'idée de l'oasis au sein du désert, c'est une bonne idée. On est dans un désert de glace, avec des pentes désertiques, des sols qui gèlent et qui parfois dégèlent l'été sur les meilleures expositions. Et au bord de ce lac, qui devait être bien bien gelé l'hiver, parce qu'actuellement il est gelé, donc il y a 21 000 ans il devait être bien gelé, et il dégelait de temps en temps l'été, ou tous les étés, on ne sait pas. Et puis sur les pentes du lac, une sorte de petit plateau, eh bien, il y avait une petite végétation boisée, ou en tout cas avec une sorte de toundra avec quelques arbres. C'est ce qu'on peut imaginer, une sorte de toundra avec quelques arbres, des arbres qui ont traversé la glaciation et qui ont survécu aujourd'hui.
Et c'est vraiment grâce au dégel de l'été que ces arbres pouvaient tenir. Sans ça, ça marche pas.
Oui, forcément, les arbres, ils ont besoin d'avoir les racines plongées dans un sol qui est non dégelé, en tout cas l'été non dégelé, pour que les processus de nutrition, d'assimilation de l'eau, d'assimilation des éléments nutritifs tels que l'azote et d'autres éléments essentiels à la vie puissent se faire au niveau du sol. Et forcément aussi qu'il y ait d'autres organismes. Nous, on les reconstruit pas, mais on imagine qu'ils étaient présents, puisque forcément les arbres ont toujours des symbioses. Tous ces arbres qu'on a retrouvés ont tous des symbioses avec des champignons en l'occurrence.
Alors vous ne vous arrêtez pas seulement à la description de cette forêt ou de cette petite toundra. Vous parlez de feu. Ça, c'est encore plus impressionnant, non ?
Oui, alors ça a été effectivement la première découverte, c'était qu'il y a un refuge, mais on avait déjà un certain nombre de faisceaux de présomption qui nous laissaient penser que dans les Alpes, il devait y avoir quelque part des refuges d'arbres. On ne s'attendait pas à ce que ce soit si haut. Mais là, le plus gros de la surprise était effectivement, c'est de voir que ces arbres ont survécu malgré l'occurrence rare, mais l'occurrence quand même de feux, et que les arbres ont pu survivre, que les feux ont pu se propager dans un environnement glacé, et que les arbres ont pu survivre au feu, et qu'il y avait une interaction entre feu et végétation, qu'il y avait une interaction qui n'était pas due au hasard. En
tout cas. Mais qu'est-ce qui a provoqué ces feux ? Alors, on a des indices ou pas là-dessus ?
Alors, les feux ne sont pas dus à l'homme à cette époque-là. La probabilité étant vers le nul, on ne peut pas exclure, mais en tout cas, ça tend vers le nul. Autrement dit, on a très peu de chances que ce soit l'homme qui ait mis le feu. C'est le climat, notamment la foudre, qui met le feu. Après, il faut des conditions de propagation du feu, parce que déclencher le feu, c'est une chose. Il faut qu'il y ait des conditions. Autrement dit, il faut qu'il fasse ce soit sec, et l'environnement glaciaire est presque toujours sec. Et l'autre condition, c'est qu'il y ait du combustible. Mais par chance, les arbres étaient là. Ils ont permis la propagation du feu de façon régulière. Quand je dis régulière, c'est quand même un feu, on a reconstruit un feu à peu près tous les 1000 ans, c'est l'ordre de grandeur. Alors qu'aujourd'hui, dans ce type d'écosystème, c'est plutôt un feu tous les 250 ans ou tous les 300 ans.
Mais justement, est-ce qu'aujourd'hui sur Terre, on trouve des environnements qui ressemblent à celui-là, c'est-à-dire secs, froids et qui peuvent s'enflammer en cas de foudre ?
Donc du feu au milieu de la glace,
oui.
Quoi, hein,
ouais.
Alors je dirais que au milieu de la glace, c'est plus compliqué. Mais au milieu dans un environnement de toundra, il y a encore 20 ans ou 30 ans, la plupart des gens auraient dit non. Sauf que depuis une quinzaine, 10-15 ans, moins de 15 ans maintenant, on commence à observer de façon plus régulière, non pas dans les Alpes en haute altitude, mais dans les régions de toundra, en Alaska notamment, mais au nord de la Sibérie, dans des environnements où il y a des poches d'arbres, au milieu de la toundra, on commence à trouver des incendies, et des incendies qui sortent de la forêt et qui se propagent dans la toundra, avec des conséquences environnementales extrêmement importantes, ce qui fait que notre étude, qui est une découverte due au hasard à l'origine, résonne très très fortement par rapport aux préoccupations qui sont les nôtres aujourd'hui par rapport à ces feux dans la toundra qui ont des implications très très fortes par rapport au changement climatique, parce que qui dit feu de toundra dit grande émission de carbone par combustion de la tourbe et des sols organiques sur lesquels se propage le feu.
Christopher Carcaillé, à quoi ressemblent les bords du lac Miroir aujourd'hui ?
Donc le lac Miroir est sur une sorte de petit plateau, sur un versant nord d'une montagne, mais un plateau qui n'est pas trop protégé du soleil, c'est-à-dire que l'été, il y a un ensoleillement qui est très fort sur ce plateau, ce qui a dû permettre il y a 21 000 ans, même jusqu'à la fin de la glaciation, qui se termine, s'achève définitivement il y a à peu près 11 000 ans, de réchauffer suffisamment le sol, le rayonnement solaire réchauffe suffisamment le sol pour permettre le dégel pendant l'été.
Merci beaucoup Christopher Carcaillé pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes écologue et Axel, on se retrouve demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique. Il y a de moins en moins de vieux poissons dans l'océan et c'est plutôt mauvais signe. Voici un nouvel impact de la surpêche démontré sur 63 espèces différentes par des chercheurs américains. La pêche intensive en prélevant les poissons les plus vieux dans les bancs met en péril la survie de toute la communauté qui repose sur la mémoire de ces anciens pour migrer ou retrouver certains sites de nourrissage. Les chercheurs montrent que sur les 63 espèces étudiées, la proportion des individus les plus vieux dans les groupes ont baissé de 79 à 97% par rapport aux mesures historiques. Les chercheurs explique que cette coupe franche dans la durée de vie, appelée troncature, peut être stoppée rapidement en multipliant les zones refuges. Nous manquons cruellement de nouveaux antibiotiques, c'est ce dont s'inquiète l'Organisation mondiale pour la santé dans un rapport publié hier avec l'augmentation toujours croissante des phénomènes de résistance bactérienne. La recherche de nouveaux moyens de lutte doit être une priorité absolue. Pour guider la recherche et les investissements, l'organisation publie également une liste de 12 familles de super bactéries contre lesquelles il est urgent de développer de nouveaux traitements. La résistance aux antibiotiques cause aujourd'hui 700 000 décès par an dans le monde, dont 50 000 en Europe. Et puis les loups seraient capables de comprendre les relations de cause à effet fait mieux que leurs cousins domestiqués, les chiens. C'est une étude autrichienne qui nous l'apprend. Les chercheurs ont réalisé des tests sur les deux espèces. Face à deux récipients, les canidés devaient trouver celui qui contenait de la nourriture. Pour les aider, différents types de signaux leur étaient envoyés. Et ce sont les loups qui se sont montrés les plus débrouillards et les plus rapides à la comprenette. Cette étude devrait permettre de mieux comprendre l'impact de la domestication des animaux sauvages et surtout la perte bien connue de capacité des animaux domestiqués face à leur alter ego sauvage. Un phénomène bien connu qu'on appelle le coût de la domestication. Et l'histoire de l'archéologie des migrations, c'est dans un instant dans le dossier de la tête au carré.
Je me souviens, je me rappelle, ces temps, ces lieux chers à mon cœur. Le jour baissait, j'étais près d'elle. Je me foutais bien du malheur. Dissimule dans le silence des sentiments, des espérances qui montent et plongent sans bruit, étoiles brillantes dans la nuit. Je me souviens, je me rappelle, très doucement jouait le vent. Alors elle me semblait si belle, alors moi j'avais tout le temps. Dissimule dans le silence des sentiments, des espérances qui montent et plongent sans bruit, étoiles brillantes dans la nuit. Je me rappelle une croix trop lourde pour moi, un bois qui pèse et m'écartèle, pourtant comme jamais cette croix. Dissimule dans le silence des sentiments, des espérances qui montent et plongent sans bruit, étoiles brillantes dans la nuit. Je me rappelle ces temps, ces lieux chers à mon cœur. Le jour baissait, j'étais près d'elle. Je me foutais bien du malheur. Je me souviens, je me rappelle très doucement. Le vent jouait, alors elle me semblait si belle. Et moi, le temps, je l'avais, oui. Je me souviens, je me rappelle une croix trop lourde pour moi. Un bois qui pèse et m'écartèle. Et pourtant, je l'aimais, cette croix. Je me souviens, je me rappelle, je dissimule dans le silence mes sentiments, mes espérances, qu'ils montent et plongent sans bruit, étoiles brillant dans la nuit, étoiles brillant encore dans la nuit, dans la nuit, dans la nuit, et puis...
Et c'était Daniel Darc avec Je me souviens, je me rappelle.
La tête au carré. Sur France Inter.
Archéologie des migrations, c'est donc un collectif de scientifiques qui sont réunis dans cet ouvrage qui sort aux éditions de La Découverte et je reçois les deux personnes qui l'ont dirigé, Dominique Garcia, le président de l'INRAP, l'Institut National de Recherche en Archéologie Préventive et professeur des universités, puis Hervé Lebras, démographe, directeur d'études à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales et directeur de recherche émérite à l'INED. Alors il faut d'abord peut-être replacer ce livre dans son contexte puisqu'il s'agit de textes issus d'un colloque qui s'est tenu en 2015, d'ailleurs en novembre. Le jour même où Paris était frappé par les attentats. Pourquoi est-ce que c'est important de faire appel à l'archéologie et à différentes disciplines d'ailleurs pour parler de cette question de la migration, Dominique Garcia? Donc,
chaque année, l'INRAP organise un colloque où il essaie de mettre en perspective des données du passé avec des questions sociétales actuelles, dans le but justement non pas d'essayer de deviner l'avenir, de prédire l'avenir, mais au contraire de prendre un peu de recul et de voir dans les scénarios passés s'il y a des éléments sur lesquels on peut réfléchir, que ça soit l'archéologie de la violence, l'archéologie de l'éducation, l'archéologie de la santé, ou là, en l'occurrence, l'archéologie des migrations.
Pourtant, vous dites aussi à quel point l'archéologie aide évidemment à comprendre le passé, mais le présent et peut-être aussi à envisager le futur. Hein.
Alors, envisager le futur, c'est peut-être prétentieux, mais poser les bonnes questions et peut-être s'éloigner des mauvaises réponses actuelles. Montrer que le dossier est beaucoup plus complexe et que dans le passé, différents scénarios ont donné différentes réponses.
Hervé Lebras, vous avez donc rassemblé pour ce colloque beaucoup de spécialistes, hein, archéologie, démographie, mais également des historiens, des géographes, des biologistes. L'idée, c'était quoi? De lever un certain nombre d'ambiguïtés sur la nature même des migrations?
Je crois qu'il y avait d'abord quelque chose à laquelle on est tous intéressés, c'est un peu d'où venons-nous? Et d'où venons-nous comme groupe humain, comme culture? Et très souvent, on a demandé, pas simplement justement à l'histoire, mais quand on va plus loin, à l'archéologie, de nous éclairer. Et très souvent, en plus de cela, on a été éclairé en fonction du présent. Donc on a fait comme s'il existait des nations à l'époque néolithique, comme s'il existait des colonisateurs. Et l'intérêt de ce colloque était justement de remettre ces questions de migration dans leur époque et dans les civilisations ou les sociétés au sein desquelles elles se produisaient. Et c'est un intérêt double. D'abord, ça nous évitait de trop voir de comparaison avec le présent, mais en même temps, ça nous obligeait à penser que ce qui se passe actuellement est très variable et très lié à l'état de notre société et peut changer relativement rapidement. C'est justement pourquoi Dominique a raison de dire à la prévision, on ne sait pas, on ne peut pas dire grand-chose. Je crois justement que si on peut attirer l'attention non seulement sur un très lointain passé, mais aussi sur le fait qu'il faut toujours juger les migrations actuelles actuellement. Et il y a une très grande tendance à les référer à des migrations qui sont produites il y a 30 ans et qui est absolument différente des migrations actuelles, dans le cas de la France ou comme...
En revanche, ce que vous montrez bien, c'est que toutes les populations du monde ont toujours connu, au fond, ces mouvements de population.
Alors, la migration est le propre de l'homme. Ouais. Ce n'est pas un élément schématique. L'homme est le seul primate à bouger, à sortir de son biotope. Les autres espèces vivantes occupent un milieu. L'homme a dominé son milieu à tel point qu'aujourd'hui, c'est la planète entière, par définition, qui est devenue le biotope de l'homme. Et à l'intérieur de cet espace, le terme de migration renvoie bien entendu à des mouvements de personnes, à des mouvements d'idées et aussi à des objets qui ont bougé, donc à la construction même des cultures. Il n'y a pas une culture qui s'est répandue, mais en fin de compte, c'est ces migrations croisées qui ont permis la formation d'écritures et des identités éventuellement à des périodes plus récentes.
On va s'arrêter justement sur un état des lieux aujourd'hui, sur la migration en Europe, extrait de France Info TV pour la période 2015-2016.
Cet afflux de centaines de milliers de réfugiés, c'est la plus grave crise migratoire en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. En France, l'immigration, c'est environ 200 000 étrangers par an. Parmi eux, un tiers d'étudiants, des conjoints de Français. Il y a ceux qui rentrent, mais il y a ceux qui sortent et ils sont 60 000. Il faut y ajouter les demandeurs d'asile. C'est le cas notamment des Syriens et des Érythréens. Ils fuient leur pays pour échapper à des persécutions politiques ou religieuses. En France, ils étaient 64 000. Cette année, ils devraient atteindre le chiffre record de 77 000. Nous sommes très loin de l'Allemagne qui devrait accepter 800 000 réfugiés l'année prochaine. 80 000 iront en Suède alors que ce pays est 10 fois moins peuplé que la France. Enfin, notre pays a déjà connu des vagues de réfugiés beaucoup plus importantes. En 1939, près d'un demi-million d'Espagnols avaient franchi les Pyrénées fuyant le régime de Franco. À la fin des années 70, avec les Boat People, 130 000 Indochinois avaient été accueillis en France.
Hervé Le Braz, est-ce que les Français sont des gens qui se déplacent beaucoup aujourd'hui ?
Qu'entend-on par se déplacer ? S'ils se déplacent beaucoup pour aller à leur travail, la réponse c'est oui. C'est des migrations alternantes.
Et de territoire en territoire.
S'ils se déplacent beaucoup, de région à région, pas beaucoup. Et d'ailleurs souvent, c'est des allées et des retours, si bien qu'il y a une certaine stabilité à la population française. Est-ce qu'ils se déplacent beaucoup hors de France ? Oui, mais c'est ce qu'on appelle le tourisme, et très souvent, au fond, ils retrouvent dans un hôtel quelque chose qui ressemble à la France, donc ce n'est pas non plus des déplacements forts. Ceci dit, depuis maintenant une vingtaine d'années, les Français ont tendance à émigrer. C'est pourquoi j'avais même fait dans un livre un chapitre qui était « La France terre » d'émigration et pas d'immigration. Et on ne le voit pas assez, ça a été un petit peu dit dans l'extrait que avez vu, mais on entre dans ce que de plus en plus les institutions internationales appellent de la circulation plutôt que des migrations. C'est-à-dire que vous avez par exemple en France un certain nombre de jeunes médecins qui partent exercer à l'étranger et vous avez, il faut bien qu'il y ait des médecins dans les hôpitaux français, donc vous avez des médecins formés parfois en Syrie, parfois dans d'autres pays ou dans des pays d'Afrique qui les remplacent d'une certaine manière. Donc on est entré, c'est une forme de la mondialisation qui est en train de se produire et ça a un point important, c'est que les migrations actuelles sont des migrations de plus en plus de gens qui sont diplômés, qui ont un bagage culturel important, qui ont un capital culturel et éducatif et ça va de plus en plus être le cas dans l'avenir parce que le monde dans son entier est de plus en plus éduqué.
Oui, mais ça c'est étonnant parce que c'est pas du tout l'image qu'on a justement des migrations aujourd'hui. Parce qu'on pense à ces crises migratoires, on pense à ces immigrés qui viennent des pays du Moyen-Orient par exemple. On n'a pas du tout cet aspect-là en tête.
Oui, mais prenez une promotion de l'ENA, et puis vous la mettez pendant 8 jours sur une plage turque sous des tentes. Et puis ils ont pas de quoi se laver, ils mangent assez peu, et puis ensuite vous leur faites traverser la mer pendant assez difficilement. Et puis ils arrivent et vous les laissez un peu quelques temps sur le rivage, et puis vous commencez à les filmer. On dira, oh là là, ces pauvres gens, c'est un peu ce qui se produit. Il y a une tendance à montrer justement les migrants au moment le plus difficile. Mais on sait par exemple pour les migrants qui sont arrivés en Allemagne pour les réfugiés syriens, que la plupart d'entre eux, c'est non pas forcément des diplômés avec un haut diplôme, mais c'est par exemple des bons boulangers, des bons artisans. C'est des gens qui, pour parvenir jusqu'à l'Allemagne, ou pour un petit nombre d'entre eux jusqu'à la France, ça suppose du capital, ça suppose l'espoir de pouvoir trouver sa place dans la société d'accueil, et très souvent, ça suppose qu'on ait déjà des liens avec la société vers laquelle on va. Ça vous explique pourquoi à Calais, tous ces gens reviennent, parce qu'ils ont des liens avec l'Angleterre, ou avec le Canada, ou avec les États-Unis.
Dominique Garcia, aux côtés de l'archéologie aujourd'hui, il y a une discipline qui semble prendre beaucoup de place, de plus en plus, et à juste titre d'ailleurs, c'est la génétique. Est-ce que la génétique pourrait remplacer quasiment l'archéologie aujourd'hui pour nous renseigner sur tout un tas de choses du passé ?
Non, il n'y aura pas de grand remplacement de l'archéologie.
Parce qu'elle a fait ses preuves. Et la question est posée dans le livre.
Non, elle a fait ses preuves. Non, elle a fait ses preuves en posant des questions et peut-être, pardon, on parle d'évolution des éléments démographiques, on parle d'évolution des cultures, et il y a peut-être l'évolution d'une discipline. L'archéologie était avant le domaine de l'historien de l'art, de l'objet. Ensuite, on s'est intéressé à des sites. Maintenant, on s'intéresse à des espaces. Et donc, aujourd'hui, la génétique permet de mieux répondre, de poser des questions et peut-être de commencer à y répondre, mais surtout de poser les questions.
Enfin, elle répond aussi à de belles questions quand même. L'évocation de ce croisement entre Néandertal et Homo sapiens, c'est typiquement grâce à la génétique quand même.
Sur une question précise, aujourd'hui, on sait qu'effectivement, nous, vous, moi, on a environ 4% de nos gènes qui sont des gènes de Néandertal, c'est-à-dire une espèce dont on pensait qu'elle avait disparu. Celle, justement, du premier migrant, de l'évolution du premier migrant. Ouais. Donc, Homo erectus en Afrique sort d'Afrique, qui est son biotope naturel, et produit, évolue en Europe vers une espèce qui s'appelle donc Néandertal, qui disparaît environ vers 27 000 ans avant Jésus-Christ. Mmh. Et dans, on pensait que Néandertal avait justement laissé sa place à la nouvelle espèce Homo sapiens. Et en fait, aujourd'hui, grâce à la génétique, on sait qu'on a tous un petit peu de Néandertal en nous.
Ouais, et ça, c'est bien une histoire de déplacement aussi.
Et ça, bien entendu, c'est une espèce de déplacement. C'est une histoire aussi de croisement. Ouais. De relation dont on ne sait pas si elle est amoureuse ou forcée, mais dont en tout cas nous sommes les héritiers.
Absolument, et les témoins donc aujourd'hui. Oumoun Sangaré, on l'écoute et puis on se retrouve dans un instant pour discuter ensemble, Dominique Garcia et Hervé Le Braz, de cet ouvrage « Archéologie des migrations ». Oumou Sangaré.
La tête au carré sur France Inter.
Dominique Garcia, Hervé Le Braz, vous êtes nos invités cet après-midi. Vous avez dirigé ce livre qui sort aux éditions de La Découverte, Archéologie des migrations avec l'INRAP. Qu'est-ce que c'est qu'une migration au fond, Hervé Le Braz ? Il y en a plein de formes, il y a une diversité incroyable. Hein ?
Énorme, et surtout historiquement, c'est énorme. Vous avez, ça dépend aussi de l'état de civilisation. Vous avez par exemple des chasseurs-cueilleurs, donc ils vont se déplacer. S'ils augmentent démographiquement, ils vont aller vers de nouveaux terrains de chasse. Ça va être assez lent, mais vous avez aussi des pasteurs. Les pasteurs vont se déplacer assez rapidement avec des grands troupeaux. Il y a notamment un cas sur la manière dont les Celtes ou les prétendus Celtes se sont répandus en Europe, qui pourrait correspondre à cela. Puis vous avez des commerçants et très certainement un grand nombre de migrations. C'était les comptoirs ont été dès le début avec les Phéniciens et puis plus tard sans doute même jusqu'avec les Vikings ont été le fait de commerçants avec l'établissement de diaspora parce que ces commerçants souvent se mêlent à la population qui est en place. Puis vous avez des esclaves, c'était très important dans l'Antiquité, mais c'est aussi, et il y a un chapitre sur l'archéologie de l'esclavage, de la traite au XVIIIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Et puis vous avez, par exemple, dans l'Empire romain, des mercenaires qui ensuite sont des vétérans. Vous avez même des transplantations de populations entières. Donc vous voyez, c'est extraordinairement large, mais c'est toujours en rapport avec un certain état de la société en question.
Ah ben justement, arrêtons-nous sur l'Empire romain avec l'exemple de la République de Carthage, la Libye actuelle, et là c'était 7 siècles avant Jésus-Christ.
À l'embouchure d'un oued, Leptis Magna, devenue colonie romaine au IIe siècle. Passionné d'archéologie, Jaber Matoug est l'un des guides de ce site.
Là, nous sommes sur le quai sud-est du port de Leptis. De l'autre côté, c'était la mer. Et tout le long de ce mur, vous voyez des pierres saillantes qui servaient à amarrer les bateaux.
À l'époque, Leptis Magna fut l'un des plus grands ports de la Méditerranée.
C'était des bateaux qui venaient des quatre coins de l'Empire romain, que ce soit en Europe ou en Asie mineure. Ils venaient avec des vêtements, des verreries, des poteries, et repartaient de Leptis avec de l'huile d'olive et des fourves qui leur servaient pour leurs arènes.
À cette époque, près de 100 000 habitants y vivaient sur plus de 400 hectares. Dans cette cité antique, la culture tenait ici une place importante. Sur les parois du théâtre, des inscriptions en plusieurs langues. À travers l'architecture de la ville, les archéologues ont découvert une métropole cosmopolite.
L'histoire nous dit que dans cette ville vivaient en harmonie toutes les nationalités mélangées, côte à côte. Un mélange de Romains, d'habitants originaires du pays, de commerçants de passage, de Phéniciens et aussi beaucoup d'Égyptiens.
Voilà, intéressant, Dominique Garcia, cet exemple parmi beaucoup d'autres, évidemment.
L'exemple des Phéniciens est intéressant parce que ça nous donne une échelle extrêmement importante. Les Phéniciens, c'est le Proche-Orient, c'est le Liban actuel, la Palestine. Et on a ces sites qui sont généralement en bordure du littoral, des sites indépendants les uns des autres, et qui, en fin de compte, relient l'Afrique avec le reste du continent de la Méditerranée et de l'Europe. Notamment, les Phéniciens faisaient le commerce de l'ivoire, des fauves, comme nous est dit dans le reportage, et se sont implantés, bien entendu, en Afrique du Nord, la création de Carthage et des Puniques, et se sont installés également sur la côte orientale de l'Espagne pour donner naissance à une culture qu'on appelle la culture ibérique. Donc, en fin de compte, il y a des populations qui font de la navigation, qui s'implantent en bordure du littoral, qui créent des comptoirs et qui, grâce aux produits qu'ils diffusent, arrivent à diffuser leur propre culture et à créer des cultures sur place.
Alors, il y a deux choses dans ce que vous dites. C'est d'abord l'importance des migrations maritimes, qui sont vraiment prépondérantes il y a beaucoup d'époques d'ailleurs. Et puis, effectivement, Hervé Lebras, les échanges, parce que là, on voit, on échange de la connaissance, on échange des techniques, des outils, et c'est absolument fondamental dans cette idée de mobilité.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, l'archéologie apporte ici, une confirmation de ce qu'on a quelquefois du mal à admettre, c'est la rapidité des intégrations et de l'acquisition des cultures. Après tout, d'une certaine manière, ce qui s'est sans doute passé dans un très lointain passé est analogue à la manière dont les Japonais, en deux générations, ont acquis tout le savoir qu'avait accumulé l'Occident en plusieurs siècles. Et c'est effectivement à travers le commerce, et comme on l'a souligné il y a un instant avec Dominique, c'est aussi à travers la navigation. Mais il y a une chose encore peut-être plus belle avec la navigation, c'est tout un chapitre porte sur les Austronésiens, sur la manière dont a été peuplé les îles de Micronésie jusqu'à Tahiti et au-delà. Et et jusqu'à l'île de Pâques, qui est complètement isolée. Et donc, il y a quelque part là-dedans, ça dépasse les besoins du commerce, ça n'a rien à voir avec la guerre. Il y a un esprit d'aventure.
Ouais. Et quelque part... Mais ça, c'est dans les gènes de l'humain, quasiment.
C'est une hypothèse qu'on peut faire.
Il y a quand même quelque chose, ce qu'on le voit depuis le début, depuis le berceau africain. Oui. Il y a cette volonté d'aller de l'avant, quoi, et de conquérir de nouveaux territoires, quand même.
Oui, il y a la volonté d'aventure, mais peut-être après tout, c'est le mot à la mode actuellement, c'est innovation. Mmh. Mais peut-être c'est sous cette forme-là maintenant que cet esprit d'aventure se perpétue. Et vraisemblablement, c'est l'un des premiers chapitres qui est par Pascal Pic, insiste sur l'idée qu'au fond, peut-être c'est ça qui a manqué aux gorilles, aux chimpanzés et aux orang-outans. Ils sont extraordinairement débrouillards dans leur biotope.
Mais très sédentaires.
Ils n'ont pas l'esprit d'aventure.
C'est ça. Et nous autres primates humains, c'est ce qui nous différencie un petit peu, effectivement. Ces migrations maritimes et ce couloir de déplacement, c'est ce qui est dit vraiment dans l'un des articles.
Un couloir de déplacement, un réseau. Voilà, aujourd'hui, on parle de mondialisation, de globalisation. La Méditerranée, pour ne prendre que cette région du monde, à un moment donné, était un espace globalisé. Ouais. Avec la rapidité, cette curiosité, c'est aussi souvent les jeunes qui partent, les jeunes hommes aussi qui partent de tout temps, et là aussi avec des idées neuves qui sont introduites. La ville, mettons, dans l'histoire de l'humanité, est une idée neuve, et elle se répand en Méditerranée occidentale à partir du 7e, 6e siècle avant Jésus-Christ. On introduit une nouvelle forme de vie à partir de la mer, et donc des sociétés forgent une nouvelle manière de vivre ensemble.
Alors il y a les Grecs, évidemment, peuple de marins.
Alors le marin... dans leur phase d'exploration, de commerce, mais aussi parce que leur cité était trop étroite à partir du 10e siècle, et pour les régions de la Méditerranée occidentale à partir du 7e siècle, se séparent d'une partie de leur population. Si on prend le cas de la première ville créée en France, entre guillemets, qui est Marseille, Massalia, elle est créée par des Grecs qui viennent de la Turquie actuelle, de Phocée, et donc une partie de la population de Phocée, les plus jeunes, que des hommes s'embarquent dans un bateau sur des routes connues par les commerçants et puis viennent créer dans les Bouches-du-Rhône, donc dans un axe de communication, une ville qui vivra ensuite par l'association entre eux et les femmes gauloises.
On parlera tout à l'heure avec vous des migrations italiennes à Marseille, évidemment, qui ont été très très importantes. Hervé Lebras, le langage aussi, on le voit bien ça dans l'ouvrage, c'est aussi directement lié au mouvement des populations.
Ah, là, c'est plus compliqué. C'est encore plus compliqué que la génétique, parce que ça a longtemps été un des guides pour chercher à comprendre l'histoire des migrations. Comment les langues avaient divergé, la proximité entre les langues. Les linguistes ont des moyens, presque comme les généticiens, de voir comment
tracer,
une langue s'écarte. Mais ils ont tendance à oublier une chose, même deux choses. Ils ont tendance à oublier que un peuple peut acquérir une langue. C'est pas forcément parce que il a migré. Mettons, les Indiens d'Amérique actuellement parlent l'anglais. C'est pas parce qu'ils sont venus d'Angleterre. Et puis que beaucoup de langues, et plusieurs chapitres le montrent, beaucoup de langues sont sans doute plutôt des sortes de pidgin. C'est ce qu'on appelle ça aussi la créolisation. C'est-à-dire, c'est plusieurs langues qui se sont mises ensemble. Donc, actuellement, mon impression, mais je ne suis pas archéologue ni linguiste, mais c'est qu'on revient en arrière de cette prise en compte. On est très méfiant, d'autant plus qu'il y a eu l'histoire des Aryens, de l'Indo-Européen, et un des très grand, au fond, archéologue, le fondateur de la New Archaeology, Colin Renfrew, qui était au colloque et qui a fait un chapitre, s'est justement illustré en remettant en cause ce qu'il a appelé l'énigme indo-européenne, en montrant que l'analyse des différences entre langues ne nous renseignait pas vraiment sur les migrations.
Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de notre discussion autour de cette archéologie des migrations. C'est cet après-midi dans La Tête au Carré.
Quand tu pleures, t'as le spleen élégant, le blues enchanteur, il devait être aveugle et sourd pour être allé faire un tour. C'est pas la peine de faire semblant, je sais qu'on n'est pas des géants. Viens, on pleure, on pissera moins. Comme toujours, ça passera. Ça va, ça va. Je coule avec toi, viens. On danse, ça se verra moins. Comme toujours, ça passera. Ça va, ça vient, ça s'en va. Dans deux ans, on en rira. Toi et moi, viens, je t'emmène au Palladium.
Premier extrait de leur futur album qui sortira en novembre, c'est Palladium et les Brigitte.
Voici que nous découvrons une population inconnue, 300 Espagnols, soumettent un empire fort de 20 millions d'habitants. Aucun exploit dans aucun temps n'a pu se comparer à cette conquête. Même la maladie était de notre côté. L'épidémie de petite vérole fut le travail de Dieu pour éclaircir la route. Les idolâtres mourir comme des punaises, car Dieu désirait les éliminer. Aujourd'hui, forcés de détruire leur temple à Mexico, ils tombent chaque jour nombreux. Comment ne pas y voir une punition divine ?
La controverse de Valladolid, téléfilm de Jean-Claude Carrière avec Jean-Louis Trintignant à l'instant. Nous sommes au 16e, évidemment. Le choc des rencontres, hein, entre le peuple de l'Europe et celui de l'Amérique. Et puis aussi ces échanges de microbes, Hervé Lebras, c'était aussi une façon d'évoquer les migrations et les mouvements de population.
Oui, c'est surtout une façon de voir ce qu'il coûte à une population de rester, alors là les Amérindiens c'était pas de leur faute, mais de rester isolés.
Ouais.
Et on a au fond un autre exemple, c'est l'isolement entre l'Europe de l'Ouest, ou même l'Europe assez largement, et puis l'Asie, qui va amener une catastrophe qui est la grande peste noire de 1343, pas d'aussi grande ampleur, mais presque de même ampleur que ce qui est arrivé aux Amérindiens. Donc on voit que, quelque part, le métissage est extrêmement utile à l'homme, parce qu'il lui permet d'acquérir les gènes de populations qui savent résister, les populations espagnoles ou les quelques espagnols qui se sont et sont arrivés avec Cortés avaient des gènes pour résister à la petite vérole ou bien aux maladies, parce qu'il n'y a pas eu que cette maladie-là, il y a eu aussi le même simples rhumes se sont révélés mortels pour les Amérindiens. Donc l'idée est que l'humanité, c'est justement grâce au métissage qu'elle a probablement pu acquérir un certain nombre de résistances. Il se peut que, par exemple, mais là c'est une hypothèse, les Néandertaliens étaient plus résistants à certaines maladies et que nos 4% de gènes néandertaliens nous aident un peu. C'est pas sûr du tout. Jean-Jacques Hublin, dans le livre, discute le point. Il serait beaucoup plus affirmatif que moi.
On ne le sait pas encore, justement. Quelle est la part de ces gènes dans la résistance ou au contraire les effets délétères de certaines maladies. En tout cas, Dominique Garcia, c'est bon de rappeler qu'effectivement, le métissage, le brassage génétique, c'est plutôt bon pour l'humanité.
Bah oui, c'est un élément que l'on essaie de retenir dans la manière dont il résiste effectivement aux maladies, dans la manière aussi dont il produit une culture et dans la partie qu'il s'organise. Ouais. Les nations, les peuples ne sont pas des entités stables de l'humanité, mais sont des créations et des créations qui évoluent. Effectivement.
Ouais. Est-ce que l'archéologie, justement, peut témoigner de ces grandes épidémies, là, évoquées à l'instant par Hervé Lebras?
Oui, on a retrouvé ces dernières années, grâce aux analyses que vous évoquiez tout à l'heure, on a les premières traces, effectivement, de vérole, on a les éléments, les cimetières liés notamment à la peste qui ont été retrouvés, sur lesquels aujourd'hui, on peut essayer de travailler, justement, sur des séries importantes.
Ouais. Vous évoquez les invasions barbares. Qu'est-ce qu'il faut entendre derrière cette notion, d'ailleurs? Qu'est-ce qu'un barbare, au fond, Hervé Lebras?
C'était un terme qu'employaient les Grecs pour dire les gens qui ne parlaient pas un langage grec. Il faut savoir aussi que tous les Grecs ne parlaient pas le même grec. Ils avaient du mal à se comprendre. On dit les Grecs, mais c'était un monde très divers. Alors ensuite, on a utilisé ce terme pour, au fond, désigner les personnes qui étaient les plus différentes. Et on a eu peur de ces personnes. Et les migrations, qui la plupart du temps, ces fameuses migrations, notamment dans l'Empire romain, étaient ou bien des migrations relativement pacifiques, ou bien des recherches de mercenaires et d'esclaves. Le mot barbare les rendait comme des bêtes sauvages. Et donc, ces bêtes sauvages faisaient une invasion. Et cette image est restée très fortement,
c'est vrai,
comme vous
le
savez, jusqu'à maintenant.
Absolument.
Et il faut se méfier des mots, parce qu'il y a ce mot invasion qui est très souvent utilisé. Le mot vague migratoire est pas très bon non plus.
Ouais.
Le mot pression, j'ai beaucoup lutté contre le mot pression démographique.
Tout ça est très péjoratif, au fond.
Absolument.
Hein. La diaspora africaine, l'esclavage transatlantique, Dominique Garcia, ça aussi l'archéologie peut l'étudier. Elle s'est beaucoup intéressée précisément à cette diaspora transatlantique.
Alors c'est ce qu'on pourrait appeler les migrations forcées. Quand on a déplacé des populations, on voit justement aujourd'hui les études qui sont menées en Afrique, qui montrent les différentes sorties d'Afrique à l'esclavage, que ça soit effectivement du côté atlantique, mais également le transport des esclaves dans les différentes régions africaines jusqu'au Proche-Orient. Donc là aussi, la complexité de cet espace. On parlait des éléments de vocabulaire. En fin de compte, tout dépend qui parle le grec qui est implanté depuis peu dans une région. Bien entendu, les barbares et les migrants, c'est ceux qui sont autour de lui. Et en revanche, nous, à des périodes un peu plus récentes, les migrations grecques, on a appelé ça l'hellénisation, l'apport de la culture, les migrations romaines, la romanisation, parce qu'on s'en sentait l'héritier, et donc on les qualifiait avec des termes extrêmement positifs.
Ouais. Allez, dernier exemple ensemble pour évoquer justement cette diversité des migrations. Marseille, qui va devenir au 19e siècle, justement, une terre d'accueil privilégiée, là, pour les immigrés italiens, qui représentent, à la veille de la Première Guerre mondiale, 20% de la population marseillaise, quand même.
Alors, il y a près de 100 000 Italiens qui sont répertoriés vers 1900 à Marseille, et dans la fin du 19e siècle, je crois qu'il y a près d'un tiers de la population italienne qui va sortir de la péninsule italienne.
13 millions de personnes.
13 millions de personnes
qui vont sortir et émigrer vers le reste de l'Europe.
Là, peut-être un élément de modestie des archéologues, puisqu'on a pu fouiller ces dernières années le cimetière des Crottes à Marseille. Un cimetière occupé des années 1784 à 1905 qui a permis de fouiller cette
cette série de sépultures et qui montre que justement soit des mouvements d'assimilation, ouais, d'intégration ou d'aliénation,
de rejet, quoi, intégration rejet. Ou rejet, il y avait vraiment
voilà,
les deux.
Intégration rejet, on efface l'élément italien, sinon peut-être que ces populations retrouvent une strate sociale dans ce cimetière. Mmh. Par exemple, par définition, il n'y a pas de caveau de famille, mais des sépultures isolées qui montrent qu'on a des populations intégrées, mais en revanche, socialement, mmh, elles restent à leur place.
Hervé Lebras, la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est que finalement, il y a toujours eu des déplacements de groupes humains et que c'est un phénomène historique majeur dans notre histoire d'Homo sapiens?
Oui, je crois que... Et surtout que... On a insisté pendant une partie de cette conversation sur le fait que migration, presque toujours, s'accompagne de métissage, de mélange, d'intégration, mais que cela, ce que ne montre pas forcément l'archéologie, à échelle humaine, cela prend un peu de temps. Donc, il faut être patient, il faut ne pas trop rapidement trouver l'étranger, très étranger, parce que en quelques dizaines d'années, quelquefois même en moins d'une dizaine d'années, il deviendra comme nous.
Merci beaucoup en tout cas à tous les deux, Dominique Garcia et Hervé Lebras, autour de cet ouvrage « Archéologie des migrations » qui paraît aux éditions de La Découverte. Allez, tout de suite, on rejoint notre docteur.
France Inter, santé polémique, avec le docteur Dominique Dupagne.
Attention, je vais piquer.
Bonjour Dominique.
Bonjour Mathieu.
Et cette semaine, vous êtes intéressé à la meilleure manière d'établir un diagnostic médical.
Oui Mathieu, on parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment, peut-être un peu trop d'ailleurs, et c'est l'occasion de revenir sur les conditions d'un bon diagnostic. Je vais m'appuyer pour cela sur un article déjà ancien qui a comparé la valeur des différents outils dont disposent les médecins pour faire leur diagnostic. Alors le protocole de cette étude était le suivant, pour 442 patients qui se présentaient aux urgences, des médecins ont noté leur diagnostic, on leur a demandé quels étaient les éléments qui leur avaient permis d'identifier le problème du patient. L'interrogatoire, l'examen clinique, les examens complémentaires de base comme une prise de sang ou une radiographie des poumons ou enfin des examens plus complexes réalisés ailleurs comme un scanner par exemple.
Et alors ?
Eh bien on redécouvre que l'interrogatoire est primordial. Poser les bonnes questions suffit à faire le diagnostic une fois sur cinq. Ce qui explique que certains problèmes peuvent parfois être diagnostiqués au téléphone.
Pas besoin d'examiner les gens alors ?
Si bien sûr, mais pas toujours. De bonnes questions, encore une fois, permettent à elles seules 20% des diagnostics. Alors ensuite, le médecin complète son examen clinique, il palpe, il ausculte, il prend l'attention. Mais cet examen seul est très peu performant, alors qu'il le devient s'il est couplé avec l'interrogatoire qui justement permet de l'orienter. Idem pour les examens complémentaires de routine, radio, électrocardiogramme, ils sont peu contributifs, contrairement à ce qu'on croit, si on ne connaît pas l'histoire du patient. Et ça explique au passage pourquoi il est très difficile d'interpréter des résultats d'examen quand on ne sait pas pourquoi ils ont été demandés, chose que beaucoup de patients ont du mal à comprendre. Et donc, la combinaison de l'interrogatoire, de l'examen clinique et des tests de base permet un diagnostic dans 90% des cas. Mais encore une fois, ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'examen clinique et les tests de base sont peu performants en l'absence de dialogue préalable. Un bon médecin est un médecin qui parle et qui écoute. Alors, rien de nouveau sous le soleil, me direz-vous. Mais c'est intéressant de le rappeler, car si les patients veulent qu'on les écoute, ils sont parfois réticents à répondre à des questions dont ils ne perçoivent pas l'intérêt.
Ouais.
Et puis, je voudrais illustrer cette réalité en racontant une histoire.
Une histoire vraie ?
D'après son auteur, un jeune médecin remplaçant qui effectuait une visite à domicile dans une ferme, et donc il tombe sur Papy Roger, 88 ans, qui ne se sentait pas très bien, et sa fille avait donc appelé le médecin. Alors, mon jeune confrère l'interroge sur ses symptômes, mais Roger, il renacle à répondre. Le médecin dit, mais qu'est-ce qui va pas? Le vétérinaire, lui, il a pas besoin de poser des questions à mes vaches pour les soigner.
Ça, c'était Roger. Hein.
Voilà.
Ouais.
Vous l'avez reconnu. Bon, mon confrère arrête alors de parler et l'examine en silence. Toujours en silence, il rédige une ordonnance et l'attend à la fille d'un air grave et déclare « Vous lui donnerez ça, mais si ça va pas mieux dans 48 heures, il faudra le piquer.
Ah » ouais.
Bon, tête de Roger, bien sûr. Bon, je sais que ça fera pas rire tout le monde, mais moi, j'adore cet humour.
Oui, ça m'étonne pas.
Nous ne sommes pas des animaux. Ouais. La parole est primordiale pour soigner aussi bien les questions que l'écoute.
Et quand on veut faire un bon diagnostic en particulier, on réécoute cette chronique sur franceinter.fr. Merci Dominique Dupagne, à la semaine prochaine. C'est terminé pour cette tête au carré. Merci beaucoup à Julien Dumont qui était à la technique et Thierry Dupin pour la programmation musicale. Demain, c'est vendredi, ce sera donc le club de la tête au carré. Bonne journée et à demain.